Vous écoutez
RMC. RMC, Rotten Régal.
Et la casquette qui saigne, elle est pour moi. Elle est pour moi, cette casquette qui saigne.
Le multiplex.
La lutte pour le titre, évidemment, dans Rotten Régal. On a avec nous Edouard Gey, notre correspondant à Lyon. Salut Edouard. Edouard.
Eh ben non.
Oui.
Eh ben
non. Oui. Ah, salut Edouard.
Ah ben oui.
Bonjour, bonjour.
L'homme du week-end.
Eh ben oui.
Il est leader de Ligue 1 avec le LOSC. Jean Baumel. Djibo est avec nous. Salut.
Bonsoir Djibo. François, bonsoir Jérôme. Bonsoir
salut,
capitaine.
Flo Germain bonsoir, est en direct de Marseille à la veille de Nice. Marseille. Oh. Salut Flo.
Salut François, salut, Flo. Salut capitaine, salut Nasser. Salut Jérôme.
Et puis à Nantes, avant un match très très chaud pour le maintien, on retrouve Pierre-Yves Leroux. Salut Pierre-Yves.
Bonjour à tous, bienvenue à Nantes, la nouvelle place forte du foot.
Salut Pierre-Yves.
Il y a des titulaires ce soir.
C'est l'équipe type ce soir, c'était pas arrivé.
Ah, c'est l'équipe type.
Il y en a encore. Ah, c'est une grosse défense. Les vieux briscards.
On a un pilier de barre.
Oui. À Bordeaux, Nico Parlorci est avec
oui.
Nico.
Salut, salut à tous. Je vois en tout cas qu'on a boycotté Julien Landry, donc il fait pas partie des titulaires.
Non, il est passé, il nous a déçus ces derniers
vétéran.
Ouais.
Allez, tout de suite, on va commencer ce multiplex en prenant la direction de Lyon. Lyon avec l'OL qui reçoit le Paris Saint-Germain dimanche à 21h. On se souvient du match aller, Edouard. À l'aller, le PSG s'était incliné au Parc des Princes, battu par Lyon 1-0. Est-ce que les Lyonnais vont s'appuyer sur ce match? Est-ce qu'il en était question lors de la conférence de presse du jour?
Oui, justement, c'était l'un des thèmes. Et alors, il y avait du oui et du non. On n'était pas en Normandie, mais il y avait du oui et du non. Et surtout du non, c'est Rudy Garcia. Ce n'est pas le même coach, ce n'est pas la même tactique et c'est pas la même période de la saison. Peut-être qu'il faisait référence au rendement de ses troupes. Hein. Au mois de décembre, tout allait bien pour l'OL. Et puis Memphis, qui était en conférence de presse aussi, dit non, on a laissé cette victoire en 2020. On a fait du bon travail, mais c'est un nouveau challenge qui nous attend pour ce dimanche. Il y a eu quand même du oui parce que les deux ont parlé de confiance acquise avec cette victoire. Du coup, on a dévié sur la force de l'OL actuellement. Cette belle passe face au gros, hein, pour l'instant, avec ces 4 points pris, c'est la meilleure dans ce mini championnat entre les 4 premiers. Et puis l'expérience aussi de Final 8 pour cette équipe de Lyon face aux grosses équipes où tout va bien, mais sans excès de confiance. Et juste qu'on a titillé Rudy Garcia sur le fait que le PSG a déjà perdu 7 titres, eh bien, on sent bien qu'à l'OL, on dit que elle a déjà perdu 7 matchs, hein. L'OL, on dit, bah oui, mais le dernier titre des Lyonnais, c'était aussi avec 7 défaites, c'était en 2008. Et Rudy Garcia, il contre-attaque en disant, OK, ils ont peut-être perdu 7 matchs, mais en tout cas, ils en ont gagné 19 et c'est le plus fort taux pour les candidats au titre. Donc, voilà, cette victoire à l'aller doit donner un petit peu de confiance, mais pas d'excès de confiance pour les hommes de Rudy Garcia.
Lyon va-t-il refaire le coup, Jérôme?
Écoute, il va falloir qu'il fasse un match parfait. C'est sûr que le match aller avait été dans ce sens-là, du côté lyonnais. On avait senti beaucoup de maîtrise et surtout beaucoup de bonnes choses au milieu de terrain. Ils avaient vraiment été très bons, hein, Paqueta, Aouar, Thiago Mendes. Mm. S'ils renouvellent ce genre de match, oui, ils mettront dans le bon sens, ils résisteront à la force des Parisiens, parce que de l'autre côté, le Paris Saint-Germain devra réagir dans tous les cas. Ils ont été trop décevants sur les gros matchs pour encore être surpris à Lyon. Après, ça donne pas une garantie de résultat. Et là, on parlait du scénario, de la tactique, du niveau des joueurs, mais c'est le résultat surtout qui est très important, parce que malheur aux vaincus. L'équipe qui perd là, je pense qu'elle perd quasiment tout espoir d'être champion à la fin. Surtout que Lille reçoit, et on en parlera avec Djibo tout à l'heure, ouais. Mais Lille reçoit Nîmes et il pourra y avoir 6 points d'écart avec le perdant.
Alors il y avait Memphis Depay, Edouard, en conférence de presse, donc c'est signe que c'est un gros match évidemment, c'est le capitaine qui s'est présenté. C'est un des hommes clés, et ça sera peut-être l'homme clé justement pour le sprint final pour Rudy Garcia.
Oui, on a évoqué tous les sprints finaux de l'OL qui ont été souvent gagnants en 2002, 2004, 2016, 2018. Et justement, Memphis Depay, quand on lui a posé la question, est-ce que c'est ta meilleure année, cette année 2021, avec ses 14 buts et ses 9 passes décisives, il dit non, il y a peut-être 2018, parce qu'il avait marqué 8 buts lors des 8 dernières victoires de l'OL. Et à ce moment-là, ça lui permet d'un tacle, d'un câlin et d'un échange d'amabilité. Alors le tacle, vous allez l'entendre, c'est pour Bruno Genesio. Le câlin, c'est pour son coach actuel. Et l'échange, c'est la réponse énamourée de Rudy Garcia pour son capitaine. Je vous propose d'écouter les deux, Memphis Depay et Rudy Garcia.
Si Rudy Garcia était arrivé avant, j'aurais fait encore mieux, car il m'a donné beaucoup de responsabilité et de confiance.
Avant lui, il y avait un manque de confiance et de communication. Je ne mets pas la faute sur Genesio, mais il y avait parfois des malentendus entre nous deux.
C'est un joueur hors norme. Ce joueur-là, c'est un des top players de la planète foot actuelle. Il a besoin qu'on lui fasse confiance, qu'on joue carte sur table avec lui, qu'on soit honnête et qu'on lui dise ce qu'on pense.
Oui, voilà.
J'ai entendu un boom. C'est toi, Jérôme, tu t'es pas fait mal.
Non, c'est autant je suis assez d'accord sur la relation qu'il avait avec Genesio, et je pense que Genesio, elle a perdu du temps. Autant c'est vrai qu'il y a une relation de confiance avec Rudy Garcia, mais bon, tout n'a pas été parfait non plus hein, depuis que Rudy Garcia est arrivé hein, dans cette relation-là. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, offensivement, c'est la valeur la plus importante pour l'Olympique Lyonnais. Et tu peux, s'il n'y a pas un grand Memphis Depay sur la fin de saison, Lyon ne pourra pas rivaliser avec dans la course au titre. C'est pas possible. Si tu comptes sur Toko Ekambi, sur Kadewere, Cherki, sur ces joueurs-là, Slimani, je pense qu'ils n'y arriveront pas. Par contre, s'il y a un grand Depay, à tout moment, en effet, tu peux faire une différence parce qu'il a cette technique-là, ce pied-là qui peut faire des différences. Même quand il n'est pas bien, un coup de génie peut arriver et ça, c'est l'eau des grands joueurs.
Et ça, Rudy Garcia le sait, donc voilà, ça ne coûte rien de lui, ouais. De lui passer un petit peu de pommade en conférence de presse. Merci beaucoup.
Il ne faut pas oublier qu'il s'est fait un genou, hein. Dans la période.
En plus,
hein,
en match.
Voilà. Donc, alors, il y a eu 7-8 mois, même s'il y a une grande partie couverte par l'arrêt de la saison l'année dernière, mais à partir du 15 décembre 2019, il n'était pas là. En plus.
Alors, Edouard, tu restes avec nous, évidemment. Dans un instant, des infos, justement, sur Saint-Étienne-Monaco que tu vas commenter ce soir à 21h sur RMC. Justement, Jérôme, tu parlais de Lille. Il y a vraiment un énorme coup à jouer parce que Lille, Djibo reçoit Nîmes juste avant ce Lyon-PSG. Donc, c'est finalement le week-end qui peut être le week-end parfait pour les Lillois.
Ouais, c'est vrai, c'est à 17h, donc la mission forcément c'est de gagner, et s'il gagne, Jérôme le disait, il y a un super coup pour Lille. Le meilleur des coups, ce serait le match nul entre Paris et Lyon, ce qui voudrait dire 5 points d'avance pour les Lillois, et s'il y a un vainqueur, bah il y a le troisième qui se retrouverait à 6 points. Donc il y a un super coup à jouer. Christophe Galtier a fait référence forcément à ce qui s'est passé dimanche dernier entre le Paris Saint-Germain et Nantes, parce que il sait que Nîmes va sauver sa peau avec Pascal Planck, qui a porté pendant longtemps les couleurs de Lille et formateur d'Eden Hazard entre autres, hein, qui revient un petit peu à la maison. Donc il va le voir certainement peut-être faire un drôle de coup à son ancien club. Après, ce qu'on se rend compte aussi, c'est que on l'a vu cette semaine, hein, quand tu n'as pas José Fonte et que tu mets Diallo, Yazice, Arojo, Bradaric, ils sont pas bien depuis un bon moment. Là, Christophe Galtier n'a plus que le championnat. Il va avoir certainement en défense, ça c'est sûr, toujours les mêmes jusqu'à la fin s'il n'y a pas de blessés. Chélic, Fonte, Botman, Reynildo à gauche, parce que Maignan, bon, ça c'est sûr aussi. Au milieu, t'auras André tout le temps, Sanchez, voire peut-être Sheka de temps en temps. Et puis devant, je pense que Bourak et David seront ensemble. Et sur les côtés, Bamba, Ikoné, qui va peut-être jongler avec Weah. Mais voilà, pour ceux qui ont raté l'occasion de la Coupe de France, un peu raté aussi le match contre l'Ajax, ça va être compliqué de trouver du temps de jeu. Et je pense que cette équipe-là, s'il n'y a pas de blessés, elle va être dure à bouger. Et va, ouais. Voilà, pour Christophe Galtier, je pense que il a plus de certitudes. Maintenant, il y aura les blessures, il y aura les suspensions, et il y aura aussi, on verra avec les sélections la semaine prochaine. Mais voilà, c'est la clé, elle est là pour moi.
Renato Sanchez opérationnel ou pas?
Oui. Oui, il y en a qu'un qui est absent, c'est Jérémy Pied. Donc, il a tout le monde.
Pas trop
théoriquement,
grave,
ça devrait aller, de toute façon,
les Lillois, quand je te dis, ils n'ont pas le droit à l'erreur sur ce genre de match, ça c'est sûr. Il faut gagner ces matchs-là contre des adversaires plus faibles. Moi, je pense qu'il n'y a pas de problème. Le seul problème des Lillois, c'est les confrontations qui vont arriver contre des équipes du haut du tableau qui luttent pour ce titre. Et là, c'est vrai qu'on peut émettre quelques doutes sur l'état de forme individuel, mais aussi collectif de cette équipe. Elle a été beaucoup plus impressionnante sur il y a quelques semaines.
Ouais, puis après faut pas oublier aussi que si Nîmes, ça va être certainement le cas, va peut-être faire le coup comme Brest, comme Strasbourg, où Lille avait galéré à domicile, avec quand c'est un bloc bas, ils ont vraiment du mal et ils peuvent espérer pourquoi pas arracher le nul. Hein. C'est pas interdit pour une équipe comme Nîmes. Hein.
Ouais, bon, si c'est ça, s'ils arrivent pas à battre Nîmes chez eux, hein, avec tout le respect que j'ai pour Nîmes.
Je suis d'accord avec toi. Et en plus t'as Bourak, parce que là Bourak, sur ce genre de scénario, il va t'aider.
Ouais. Exactement.
Il voilà. était pas mal d'ailleurs hein, pour le retour.
Ouais, ouais, ouais. C'est ce qu'il a fait à Paris, c'était pas mal. Et voilà, on a vu que ceux qui étaient pas bien dans leur tête, les Diallo, les Arojo et Yazice, bah voilà. Ouais.
Diallo, tu peux. Pas bien dans sa tête, pas bien dans ses pieds.
Dans les pieds, ouais. Diallo, ça fait plusieurs fois, Captain, c'est vrai qu'on le voit jouer.
Il aime bien Diallo.
Contre l'Ajax, il était formidable.
Il fait une petite fixette sur Diallo, là.
Non, mais c'est pas son genre de faire des fixettes.
Là, je peux te dire qu'il te l'a fait. Heureusement qu'il commande plus les matchs parce que je peux te dire que Diallo, il s'en prendrait.
Allez, c'est le Multiplex Liga de Rotten Régal. Merci Jibo, tu restes avec nous bien sûr. On va faire tout de suite le tour des stades. 5 infos ce soir, 5 infos, une info chacun. On va commencer par l'OM qui joue à Nice demain à 17h. Flo, il manquera un élément important à Marseille.
Oui, c'est Bouba Camara, sûrement le meilleur olympien depuis le début de la saison. Et effectivement, Sampaoli a dit hier que c'était très compliqué de le remplacer. Donc faites vos jeux messieurs. Gueye devrait entrer dans la danse aux côtés de Thauvin au milieu de terrain. Et le troisième homme, qui ce sera? Est-ce que ça pourrait être Encham ou Cuisance, récompensé pour ses bonnes entrées et ses deux buts? En tout cas, on rappelle que Rongier, qui aura eu son mot à dire justement, est lui aussi forfait à cause du tendon d'Achille, comme à ma vie, touché encore la cuisse.
Nantes-Lorient, c'est dimanche, c'est décisif pour le maintien. Pierre-Yves, quelles sont les infos dans le groupe nantais et lorientais?
Eh bien, la parole est à la défense, parce que les absents, ils sont là. Fabio Ecorcia du côté nantais, et puis du côté lorientais, Vincent Le Goff et Jérémy Morel, toujours avec des problèmes de psoas. Donc, on va voir comment ça s'organise. Du côté nantais, il y avait eu le choix d'une défense à 5 face à Paris, mais c'était le choix d'un schéma d'un square. Donc on retrouvera peut-être Coco en défense, mais sans doute pas une défense à 5. Et puis du côté de Lorient, eh bien, on verra si c'est Ergo et Mendes qui sont sur les côtés, mais c'est fort probable.
À Bordeaux, Nico, avant le déplacement à Montpellier dimanche, ça sera encore sans Ben Arfa cette fois.
Ouais, ça sera encore sans Ben Arfa. Alors il va y avoir un dernier test demain pour savoir s'il peut faire partie du groupe, mais il a rechuté cette semaine. Il a pris un coup sur le genou la semaine dernière et il y a une petite tendinite qui s'est déclenchée. Du coup, ça paraît très compromis pour dimanche. Le gros coup dur aussi pour Bordeaux, c'est Samuel Kalou qui s'est blessé à la cuisse, déchirure de 3 cm. Il devrait revenir avant la fin de saison, mais il sera absent plusieurs semaines et c'est un des seuls joueurs à Bordeaux qui était capable de percuter. Edson Metscher est incertain. Mehdi Zerkan également, qui a été intéressant à Dijon la semaine dernière. La seule bonne nouvelle niveau effectif côté Bordeaux, c'est le retour de suspension de Koscielny.
Et Djibo, tu nous parlais de Lille tout à l'heure. Lens est à Strasbourg dimanche à 13h. Est-ce que tu as des infos à nous donner sur les Lensois?
Le seul absent, ça sera certainement Ganago, hein, qui a du mal à se remettre de son problème d'ischio. Départ demain pour Strasbourg. Et Lens qui perd des points, ça joue bien, mais ils ont perdu des points contre tes amis Messins. Donc voilà, s'ils veulent.
Tout le monde perd des points contre mes amis Messins en ce moment.
C'est une passe européenne. Il va falloir faire un beau finish.
Et puis Edouard, enfin, tu commentes, je le disais, Saint-Etienne-Monaco ce soir, 21h sur RMC. Les infos sur les Verts qui vont se présenter ce soir.
Eh ben, nos radars avec Timothée Mémon ne donnent rien pour le moment parce que il y a un groupe de 24 et il y a des cas Covid. Alors, à Saint-Etienne, on ne communique pas. Donc, on ne sait pas trop si, Aouchi, si Arnaud Nordin et surtout si Jesse Moulin vont être dans le groupe. Du coup, vu que Jesse Moulin peut ne pas être là, puisque Basic. Ils vont avoir un gardien qui pourrait s'appeler Étienne Green.
Ça ne s'invente pas. De jouer à 11, ça va leur faire du bien.
Étienne Green, donc un jeune franco-britannique Green, hein, qui va bien. C'est
Green.
Pour le reste, ça devrait être Bouanga, Abi et Kazri, mais il y a beaucoup d'incertitudes avec ce groupe de 24 qui pour l'instant n'a pas des infos.
Les quatre fantastiques sont. Nordin n'est pas là.
On vous retrouve.
On ne sait pas.
Avec Timothée, merci beaucoup.
On va essayer de
rejoindre Geoffroy Guichard.
Il est là.
Toutes les infos, bien sûr. Après, Rotten Régal. Les autres, vous restez. On sera à Marseille avant Nice. Marseille, à Nantes aussi, qui joue sa survie contre Lorient. Et Gasset, qui n'est pas certain de rester à Bordeaux la saison prochaine. On en parle tout de suite dans Rotten Régal.
On est mal.
RMC. Rotten Régal. François Pinet. Jérôme Rotten.
19h18. Allez, on va repartir, François, avec notre multiplex. On ne va pas perdre de temps. On va donner la parole à nos correspondants.
N'oubliez pas quand même, dans 15 minutes, Fred Hermel, Julien Laurence, deux titans, parce qu'il y a Real Madrid-Liverpool en Ligue des Champions.
Ça va être l'affrontement.
On parlera de cet affrontement entre les deux clubs.
Je sais qui va gagner, là.
Et puis,
il y en a un qui risque de se faire écraser.
Et puis, juste avant, on va aller en Ligue 2, retrouver Aurélien Tiersain, Chambly, AC Ajaccio. C'est ce soir, c'est en
On est obligé. Vas-y.
On va lui demander.
Salut, Aurélien.
Salut, messieurs.
Est-ce que c'est bien, Aurélien?
C'est énorme. Entre le 19e de Ligue 2, Chambly. Tu te rends compte, Jérôme, ça pourrait être la première fois que Chambly descend soit rétrogradé. Ça fait 25 ans que le club existe, jamais le club n'a été rétrogradé. Et là ils sont 19e, ils ont un besoin cruel de victoire pour l'instant, 0-0 après 20 minutes de jeu. Ajaccio ne va pas très bien non plus en ce moment, donc l'objectif déjà ce sera de marquer un but, parce que ni l'une ni l'autre ne marque beaucoup en ce moment. Et il faut dire qu'effectivement vous n'avez rien manqué depuis le début. 20 minutes 0-0,
tu nous l'as bien vendu effectivement ce Chambly. Mais bon, on viendra
on a vu sur la cathédrale le soleil derrière qui se couche. On est quasiment à Los Angeles, on voyage.
On est avec Jean Bobet, Pierre-Yves Leroux, Flo Germain, Nico Paolorsi pour vous présenter la 30e journée de Ligue 1. On va tout de suite aller à Bordeaux avec toi, Nico.
Ah oui.
Parce que Bordeaux se déplace à Montpellier dimanche. Et alors, il y avait une conférence de presse de Jean-Louis Gasset. Alors, la dernière fois, on s'en souvient, c'était Koscielny qui avait pris la parole, qui avait bousculé un petit peu le vestiaire.
Et maintenant, c'est Gasset.
Là, Gasset, il a surpris un petit peu tout le monde, Nico.
Ben ouais, parce qu'on allait tranquillement à cette conférence de presse. Bon, c'était pas un match incroyable au niveau de l'enjeu. Bordeaux s'est rassuré la semaine dernière en battant Dijon. Ils sont 11e du championnat. Ils ont besoin de 6 points pour sécuriser vraiment le maintien. Ouais, mais non, mais voilà. Donc voilà, on se disait bon, c'est une petite conf comme ça. On va voir ce qui se passe. Et puis on pose une question à Jean-Louis Gasset sur Atem Ben Arfa. Il nous dit qu'il est incertain d'ailleurs pour dimanche. On lui pose une question sur l'avenir de Ben Arfa. Est-ce qu'ils veulent le prolonger parce qu'il a une année en option, Atem Ben Arfa. Et en fait, Gasset, il nous dit de lui-même, bah avant de parler de l'avenir de Ben Arfa, faudrait peut-être que moi je donne ma réponse. Et donc on essaye de le travailler et on sent que Jean-Louis Gasset laisse planer vraiment une vraie incertitude sur son avenir à Bordeaux. Il dit qu'il discutera avec les hauts responsables du club. Je vous propose d'écouter Jean-Louis Gasset, et notamment quand tu lui as posé la question de savoir s'il mettait son avenir en question, parce que cette saison actuelle le marque profondément.
On m'avait annoncé un challenge difficile. Connaissant le club, je me disais, voyant les joueurs de l'effectif, je me disais, mais en fin de compte, on m'avait menti, parce que c'est plus dur que ce que je croyais. Parce que là, on souffre. On vient de passer un mois de février où on a souffert, grandement souffert. Aujourd'hui, je suis fixé sur un objectif, bien finir. 9 matchs, 27 points, gagner le plus possible de matchs.
Voilà, alors d'après nos infos, avant le match face à Dijon, il a même pris la parole face à ses joueurs. Il a dit, les gars, il nous reste 9 points à prendre avant qu'on se quitte, bons amis. Et d'ailleurs, ça a pas mal interloqué les joueurs, parce qu'il y a certains joueurs qui ont tiqué, qui se sont dit, ah, ça veut dire que le coach va peut-être pas continuer avec nous la saison prochaine. Donc voilà, il se pose de vraies questions. Il se pose aussi des questions sur l'effectif qu'il aura l'année prochaine. Il y a encore 7 joueurs en fin de contrat, que Bordeaux n'aura pas les moyens de recruter. Donc il est en train aussi de faire l'état des lieux au niveau des jeunes. Voilà, il a pas envie de se remettre dans une deuxième saison galère. Il est en contrat jusqu'en 2022, ouais. Donc on va voir comment ça se passe.
Surtout, Nico, que du côté de Bordeaux, l'horizon est plus que bouché. Hein.
Et ça va être très compliqué au niveau du recrutement.
C'est un club. Moi, je plains les salariés, ceux que je connais, les Alain Roche, les Patrick Battiston, les Yannick Stopira et compagnie. Mais c'est un enfer. C'est un enfer, ce club. Aujourd'hui, on ne sait pas où il va, on ne sait pas qui est le patron. On a un maire qui est parfois avec les supporters, parfois contre les supporters. On ne sait rien. Il y a une commission de conciliation. J'ai vu le pauvre Alain Gigeresse là-dedans qui essaie de faire le tampon entre les. C'est un bordel sans nom.
C'est un bordel. Surtout, Captain, la principale question autour de Bordeaux, c'est le déficit qu'il y a, qui va être chiffré autour de 70 millions d'euros, probablement, avec les pertes financières liées au Covid et l'endettement du club. Donc voilà.
C'est rassurez-moi, les joueurs, ils sont payés, là.
Les joueurs sont payés.
Ah, d'accord. Donc moi, je veux bien que Jean-Michel, tu me parles de Battiston, de Roche, de Dumais ou quoi que ce soit, de l'ambiance dans le club. Quand tu entends ton entraîneur comme ça, avec cette voix-là, quand tu vois les joueurs, le peu d'investissement qu'il y a.
Mais je n'en parle pas parce que
je crie au scandale là.
Plutôt qu'aller chercher de
les deux. Ben oui, non, mais qu'au mois de juin, ils se posent des questions, tous, qui se barrent, qu'il n'y a pas d'argent, que ceci, cela.
Ah non, non, mais Jérôme, tu as mal interprété mon intervention.
D'accord.
Mais les privilégiés, je n'ai même pas envie de parler d'eux.
Ah d'accord, bon, ça va.
Alors, merci Nico, on va partir à Marseille. Parce que Marseille joue à Nice, c'est demain à 17h. 2 victoires, on l'a dit, contre Rennes et Brest. Marseille qui s'est totalement relancé dans la course à l'Europe, Flo. Est-ce que l'OM doit jouer à fond cette cinquième place grâce à Sampaoli et pas du tout grâce à Nasser Larguette?
Non, bien grâce à Sampaoli, merci.
Écoute, oui, dans la course à l'Europe, mais quelle Coupe d'Europe? C'est un peu ce qui préoccupe les Marseillais, puisqu'on rappelle que le top 4 paraît inaccessible désormais pour les Marseillais.
La Conférence Cup, là.
À 11 points de Monaco. Donc, pour le moment, la cinquième place est qualificative pour la Conference League, donc vraiment la petite Coupe d'Europe. et même d'ailleurs pour les barrages de cette Conference League. Ça veut dire que l'OM se met à supporter Paris, oui on peut le dire, Paris, Lyon, on peut le dire aussi, et comme gros également on aurait Monaco qui bat Metz. Je parle des trois qui pourraient gagner la Coupe de France tout en étant dans les quatre premiers de Ligue 1.
Vous avez compris,
ce serait le scénario qui libérerait la cinquième place.
Pour la Ligue Europa.
Pour la Ligue Europa. Et je vous dis ça parce que on a posé la question cette semaine à Jorge Sampaoli. Bon, il s'attarde pas trop pour le moment sur la cinquième place, la Coupe d'Europe. Lui, il veut créer une identité, un caractère à cette équipe, etc. Donc, il est pas encore dans cette projection. Mais on sait que lui, c'est le genre de coach qui vont jouer à fond la Coupe d'Europe. Il avait très mal vécu avec Séville une élimination en huitième de finale de la Ligue des Champions. Ça avait précipité un petit peu sa fin d'aventure à Séville, même s'il partait après avec la sélection d'Argentine. Mais voilà, il l'avait en travers de la gorge. Lui, c'est pas du tout le genre de coach qui va passer son temps à dire non, la priorité c'est la Ligue 1, le pain quotidien, qualifier Ligue des Champions, etc. Non, lui, il y a une compétition, il veut la jouer à fond et il espère au fond de lui que ce sera la Ligue Europa. À l'OM, on serait vexé, pour le dire franchement, on aura un petit sentiment de honte d'être à jamais les premiers à se qualifier en Conference League avec des petites nations. Donc voilà, il y aurait ce sentiment-là. Si c'est la Ligue Europa, surtout si c'est la Ligue Europa, Sampaoli jouera le coup à fond.
Ils vont pas avoir honte de jouer la Coupe d'Europe. Enfin bref. Bon, on verra.
La conférence Ligue, tu vois ce que je veux dire, c'est un petit sentiment de.
Oui, mais bon, c'est peut-être. Non, mais elle a pas d'histoire parce que elle va le débuter, mais au bout d'un moment. Ça serait bien de respecter en France qu'on respecte toutes les coupes d'Europe.
Merci Jérôme.
Parce que l'Europa League, on la respecte pas. Elle arrive, on passe pour des peintres.
Pas respecter les coupes si
Marseille est quand même à jamais les premiers de gagner la Conference League, ils prendront. Enfin bref. On en reparlera
on n'en est pas encore là.
Merci beaucoup Flo. Pierre-Yves maintenant, puisque Nantes reçoit Lorient dimanche, on voulait absolument en parler parce que Nantes est 18e avec 27 points, Lorient est juste au-dessus, 17e avec 28 points. Donc c'est un choc de bas de tableau très très important, Pierre-Yves.
Oui, mais enfin c'est quand même le vainqueur de l'équipe qui a éliminé le Barça, faut pas l'oublier hein.
En plus
Nantes. Quand même.
En plus. Donc ça va mieux.
Trêve de plaisanterie. C'est qu'une défaite sur les 5 derniers matchs, Jérôme, du côté
de Nantes.
Oui,
c'est vrai.
Donc c'est vrai que ça va un petit peu mieux. Antoine Comboiré a quand même réussi à trouver certains leviers, en tout cas, et notamment au niveau de la rigueur. Le petit point négatif, c'est qu'à domicile, la dernière victoire remonte au 18 octobre quand même. Alors est-ce qu'il y a un petit complexe, même s'il n'y a pas les supporters, on sait bien que actuellement c'est un peu différent de jouer à domicile. Mais en tout cas, Antoine Comboiré l'a dit aujourd'hui, c'est une grande finale. Donc il y a quand même une grosse pression sur ce match. Et puis il a mis un petit taquet quand même à ses joueurs en disant si on est à ce classement-là, c'est qu'on n'a pas assez couru depuis le début de la saison. Donc il n'y a pas de raison d'être fatigué après avoir joué contre Paris ou quoi que ce soit. Il maintient la pression, Antoine Comboiré, tel qu'on le connaît. Les Nantais ont, c'est vrai, un gros coup à jouer, à réussir à repasser devant Lorient et à se maintenir bien dans la bagarre, parce qu'une défaite, ça serait quand même un gros coup sur la tête.
Oui, ça serait un gros coup sur la tête, surtout quand t'as fait l'exploit au parc comme ça, et ça serait un peu bête et complètement. Con même, excusez-moi, mais de perdre à domicile contre Lorient. Là, on les a vus évoluer, même si le PSG a fait un mauvais match. Mais Nantes, ça a été très cohérent de la première à la dernière minute, même s'ils ont souffert en fin de match. Mais c'est logique. Et dans cette souffrance, quand tu arrives à gagner comme ça, normalement, ça te donne des ailes. Et le complexe, en effet, que tu peux avoir sur les matchs à domicile, parce que tu as raison de le rappeler, de gagner aussi peu de matchs, c'est dernier temps à la Beaujoire, c'est qu'il y a un blocage. Et ce genre d'exploit, dans la lutte pour le maintien, il y a des éléments déclencheurs comme ça qui te font sauter les petits blocages et peut-être que cette victoire au parc va les servir.
Merci beaucoup Pierre-Yves. Merci.
Salut Pierre-Yves.
À ce week-end pour le choc entre Nantes et Lorient. Merci Djibo. On te retrouve bientôt évidemment sur l'antenne d'RMC. Merci Flo.
Ciao les gars.
Un peu loin là.
Djibo. Merci. Bon week-end. Ciao.
Choix du micro.
Nico. Rendez-vous.
C'est l'apéro à ce temps-là dans le Nord.
Ils sont couchés à ce temps-là.
Moi je l'imagine avec sa bière de loin comme ça.
Picon. Une bière belge bien évidemment.
Oui bien sûr.
Merci beaucoup les gars. À très bientôt. Rendez-vous ce week-end pour la 30e journée de Ligue 1.
Salut Nico. Bonne soirée avec Ben Arfa.
Avec notre multiplex européen à revenir. Allez, à tout de suite.
RMC, Rotten Régal.
Le multiplex européen. Fred Hermel, Julien Laurence sont là. Salut messieurs.
Salut les gars.
Hola chicos.
Salut à tous.
Ah, bonsoir, oui. Messieurs. C'est magnifique là ce qui nous attend. Fred Hermel contre Julien Laurent. Oh. Tu te rends compte? Ça va chambrer. Tirage au sort qui nous offre Real Madrid, Liverpool. Alors les dates, c'est le 6 avril hein, pour le match aller à Madrid et le 14 avril pour le match retour.
Madrid, peut-être pas. Il y a un vrai doute. Parce qu'avec les Anglais, il y a toujours ce problème. Et là, je pense qu'il va falloir vraiment discuter du fait que si le Real Madrid est obligé de délocaliser ce match à cause de la quarantaine à imposer aux gens qui viennent d'Angleterre, etc. Là, ça a déjà posé un problème pour l'Atlético puisque le match aller s'était joué à Bucarest et le match retour s'était déroulé à Londres. À Stamford Bridge. Là, ça peut vraiment poser un problème. Il faut vraiment c'est pas possible que les Anglais jouent leur match à domicile chez eux et le match à l'extérieur.
Commencez pas à trouver des excuses.
Mais tu es le premier à reconnaître.
Ça s'appelle
vraiment un problème.
Non, mais bien sûr, tout à fait. D'ailleurs, on avait déjà parlé avec Fredo dans l'after et j'avais dit que c'est tout à fait injuste que le match retour ait eu lieu à Stamford Bridge, tout à fait, alors que le match aller avait été à Bucarest.
Ça, c'est le fair play british, tu vois.
Mais c'est vrai que la logique, c'est qu'il trouve un terrain d'entente là-dessus, en espérant peut-être que ça soit levé, la quarantaine.
La logique serait de faire les deux matchs à Bucarest.
Oui, on peut faire ça, bien sûr.
Mais je vous ai peut-être certainement pas de nouvelles de ce côté-là, mais vous n'avez pas d'infos comme quoi la quarantaine pourrait être levée pour recevoir les Anglais.
La situation épidémique en Espagne est en train de s'améliorer un tout petit peu.
Ouais, donc on peut espérer.
C'est pas pour faire venir les Anglais facilement. Enfin voilà, c'est
leur variant.
Julien.
Exactement.
Nous aussi, ça s'améliore un petit peu doucement, notamment la campagne de vaccination, qui est très efficace, mais c'est vrai qu'il y a encore un petit peu de temps. C'est ça qui est bien, c'est pas comme si le match avait eu lieu la semaine prochaine. Il y a encore un petit peu de temps et il faut espérer qu'on puisse avoir ces deux matchs-là dans les stades où ils doivent se jouer et pas sur terrain.
Alors, ma question pour vous, messieurs, bien sûr, qui a fait la bonne affaire entre le Real Madrid et Liverpool?
Je vais me permettre de dire le Real Madrid, mais c'est pas moi qui le dis, c'est la réaction en Espagne. Parce que le tirage au sort est quand même intéressant et je vais vous faire un peu de culture espagnole. Les journaux parlaient, le Real a esquivé les trois cocos. Alors les cocos, le coco, c'est dans le langage enfantin espagnol, c'est l'ogre méchant, celui sur lequel il faut pas tomber. Il y avait trois cocos, le PSG, Manchester City et le Bayern. Et ils sont de l'autre côté du tableau. Ce qui fait que le Real Madrid... à Liverpool en quart, s'il y a une qualification, c'est Porto ou Chelsea. Donc, on peut pas dire qu'ils soient mécontents, d'autant plus que c'est le remake de la finale de 2018. On s'en souvient, victoire 3-1 des madrilènes, c'est la dernière fois que le Real Madrid a gagné la Ligue des Champions. Ça reste, c'est une
blessure de Ramos avec Salah.
Exactement, donc Salah, il sait ce qu'il faut faire. Il aura un vrai défenseur face à lui. et le Real Madrid se dit... Enfin, l'analyse que je fais, c'est que le Real Madrid tombe contre Porto ou Dortmund, il y a toujours ce risque d'un petit peu de suffisance ou de dire oui,
Et on est supérieur.
Dans ces genres de matchs, ils se sentent supérieurs et ce genre de matchs sont souvent des matchs de piège. Là, même si c'est pas un Liverpool en pleine forme, c'est Liverpool. Donc, en gros, c'est une super affiche. On sait qu'ils vont être très bien préparés dans leur tête et dans la concentration qu'il faut, mais c'est pas le Liverpool de la finale de 2018, encore moins celle de 2019. Donc c'est un tirage qui plaît beaucoup à Madrid, je dirais peut-être même un peu trop.
Capitaine, tu voulais dire quelque chose?
Oui. Non, et Julien est un Liverpool qui, malheureusement pour lui, ne récupérera pratiquement aucun de ses défenseurs qui sont sur le flanc actuellement.
C'est vrai, capitaine, tout à fait. Pas de Van Dijk, pas de Matip, pas de Gomez, pas du tout, même pour le prochain tour, même pas pour une potentielle demi-finale ou une potentielle finale non plus. Donc il faudra faire sans. Une équipe de Liverpool qui finalement a deux visages. Hein. Elle est très bonne plutôt en Ligue des Champions. On l'a vu contre Leipzig, même si au match aller elle a bénéficié de deux grosses erreurs, elle a quand même été solide. Au match retour, elle a été très intéressante. Par moments, j'ai trouvé. En championnat, c'est beaucoup plus difficile, notamment à domicile. Ça, on le sait, on en a beaucoup parlé déjà. Mais elle est convalescente, mais elle est aussi surprenante parfois, notamment en Ligue des Champions. Donc je pense que eux sont plutôt confiants avec ce tirage. Ils voulaient surtout éviter, on n'a pas l'équivalent de Cocos en anglais, mais ils voulaient éviter le PSG, Manchester City et le Bayern aussi. Donc à ce niveau-là, ça c'est plutôt réussi. Et puis pour eux, c'est l'inverse de ce que Fred vient de dire sur la finale de 2018. C'est la revanche, c'est l'heure de la revanche. C'est effectivement tous ces mauvais souvenirs entre la blessure de Salah, le cauchemar de Karius. La défaite, bien sûr, qui a fait très très mal aussi, même si un an plus tard, ils sont allés la chercher. Mais c'est vrai que là, ce serait l'occasion. On a eu des très beaux matchs dans l'histoire de ces deux clubs récemment. Un 4-0, je me rappelle, d'une victoire de Liverpool. J'ai vu aussi un 3-0 à Anfield pour le Real Madrid. Donc voilà, il y a une belle histoire européenne commune. Et c'est vrai que pour Liverpool et les supporters, c'est l'occasion aussi de cette revanche de 2018. Et puis après, si on regarde le reste du tableau, ça pourrait être aussi une demi-finale contre Chelsea qui rappellerait celle de 2005 parce que la finale avait suivi aussi à Istanbul. Donc il y a pas mal aussi de petits clins d'œil du destin dans ce tirage-là qui plaît pas mal aux supporters de Liverpool.
Jérôme, c'est dur de pronostiquer franchement cette affiche parce qu'il y a des équipes comme le Real et Liverpool qui sont en difficulté dans leur championnat et puis parfois ils sont capables quand même de faire des très bons matchs. On voit un super Benzema actuellement par exemple du côté du Real.
Non, c'est dur de pronostiquer. Ce qui est sûr, c'est que j'en suis quasiment certain, c'est que tous les joueurs qui seront sur la pelouse seront en mode Ligue des Champions. C'est des grands joueurs. La plupart ont gagné plusieurs fois la Ligue des Champions. C'est pas par hasard. Et d'un côté comme de l'autre, ils ont vraiment des forces intéressantes et on risque de voir deux belles confrontations. Ouais. Oui. En tout cas, on va se régaler sur les deux matchs. Et en espérant, et Julien le disait, mais comme Fred, que ce match arrive à jouer à Madrid le premier et le deuxième à Liverpool.
Je sais pas ce qu'en pense Julien, mais vu de Madrid, il y a un respect énorme pour Liverpool. C'est la même caste, c'est-à-dire c'est l'aristocratie du football européen. C'est-à-dire qu'on se met pas des bâtons dans les roues. Voilà, on fait partie du même niveau en fait. Voilà, il y a un respect naturel qui fait que. Je pense qu'il y aura un arrangement pour cette histoire de match aller-retour. Je ne sais pas ce que tu en penses toi, mais je pense que du côté de l'Angleterre, de Liverpool, il y a ce respect pour le Real Madrid, quoi. Donc
oui, tout à fait. Même si pour certains supporters, et tu le sais, l'incident entre Sergio Ramos et Salah dans la finale a laissé pas mal de frustration. Voilà, personne ne pourra jamais dire que c'était fait exprès ou pas fait exprès, peu importe d'ailleurs. Mais c'est vrai que les supporters l'ont eu un petit peu en travers de la gorge pendant longtemps. Et encore une fois, même si c'est l'heure de la revanche, tout se passera effectivement dans le plus grand des respects entre les deux clubs et bon, ouais. Il n'y aura pas de supporters mais entre les supporters aussi.
Alors Julien, tu gardes la main pour la suite quand même du tirage parce que et il n'y a plus qu'un seul club espagnol mais il y a deux autres.
Mais Fred pourra choisir un de mes trois anglais en demi-finale, c'est ça qui est bien Fred. Mais peut-être Manchester City, ils ont pas mal d'espagnols, tu vois, pour les demi-finales, je pourrais choisir un de mes trois.
Si tu veux, on peut parler du favori aussi de la Ligue Europa qui s'appelle Villarreal, qui lui a un boulevard jusqu'à la finale.
Dans un instant, on en parlera peut-être dans un instant, je vous donnerai le tirage de la Ligue Europa, mais Chelsea-Porto avec le retour à Stamford Bridge donc, et City qui recevra Dortmund à l'aller. Moi j'ai l'impression que cette équipe de Chelsea, je sais pas ce que t'en penses Jérôme et Julien, il y a une sorte de hype autour de Chelsea actuellement quand ils ont sorti à l'Atlético de Madrid avec l'arrivée de Tourelle, et un truc qui se passe dans cette équipe, dans ce club.
Ouais, tactiquement il se passe des choses, c'est cohérent ce qu'il met en place et ça a vite pris forme. Je parle sous le contrôle de Julien aussi, mais c'est ce qu'on constate, on sent que les joueurs s'épanouissent, s'éclatent dans ce système là. Après c'est pas encore génial au niveau de la créativité dans le jeu. Quand ils ont le ballon, il y a beaucoup de déchets dans les 20 derniers mètres adverses. Ils ont du mal par moment à se procurer beaucoup d'occasions. Mais le match contre l'Atlético Madrid, ils étaient quand même en progression. Hein. Des joueurs comme Ziyech, comme Havertz, ont fait peut-être leur meilleur match, et pas peut-être leur meilleur match sous les couleurs de Chelsea, et peut-être au meilleur des moments. Donc ça va leur donner de la force pour à mon avis passer ce tour contre Porto, parce que je les sens bien supérieurs. Ouais.
Julien,
c'est vrai, on a commenté le match ensemble avec Jérôme et Jeannot, et c'est vrai que c'était par moments assez impressionnant la façon dont ils ont joué. Après, je pense que Thomas Tuchel a emprunté à Didier Deschamps son animal favori pour le tirage, hein, parce que là, c'est à un moment tout lui réussit depuis qu'il est arrivé en Angleterre, tout lui réussit
sur le terrain, en dehors du terrain, avec le tirage.
Ouais, bah la saison dernière surtout. D'ailleurs, depuis qu'il est plus là, le tirage c'était plus du tout le même aujourd'hui. Mais tout lui réussit, et c'est vrai que même si Porto ce sera aussi compliqué parce qu'ils défendent tellement bien, c'est une équipe qui a un tel état d'esprit collectif et tout ça, c'est quand même le tirage qu'il voulait. Il voulait éviter surtout le PSG. Lui, il nous l'avait dit après le match de mercredi soir, parce que le PSG émotionnellement, je pense que ça aurait été compliqué aussi pour lui. Donc là, c'est vraiment très positif pour Chelsea, ouais, même s'ils seront favoris. Et vu la forme d'N'Golo Kanté en ce moment aussi et de certains autres, ouais, c'est ouais, vrai qu'ils peuvent aborder cette rencontre aussi avec pas mal de confiance.
Puis il y aura aussi un duel entre vous, hein, Fred et Julien, en Ligue Europa, donc on en parlait. Il y aura Grenade Manchester United. Voilà, ça c'est le duel entre, ouais, entre vous deux.
C'est David contre Goliath, c'est ça. C'est le petit pousset contre le géant.
Plutôt sympa à suivre, hein, j'imagine, Fred. Grenade, c'est quand même à regarder, une équipe à regarder.
Surprenant, oui. Ah oui, oui, c'est super. C'est une équipe qui joue un football magnifique. C'est une équipe qui a quand même des joueurs, par exemple, d'expérience comme Roberto Soldado, hein, qu'on se souvient du Real, de Valence, etc.
Voilà, c'est Maxime Gonallon aussi, le Français.
Maxime Gonallon, bien sûr.
Vous nous avez fait rêver.
C'est une équipe qui était promue en Ligue 1 la saison dernière. Non mais vous imaginez,
pour lui, c'est un peu d'espoir.
La saison dernière.
Après, promue en Ligue 1 la saison dernière. C'est pareil.
Promu la Liga en Liga la saison dernière, et là ils sont en quart de finale de la Ligue Europa contre Manchester United. C'est que du bonus.
Ah, ça va être le Brésil.
Et ils ont des sous.
Ils ont des sous.
Ah oui, ils ont un propriétaire chinois.
Ouais, mais pas un chinois qui.
Pas un chinois, pas le chinois de Valence.
Non, voilà. À Valence, c'est un Singapour, c'est pas loin, mais c'est-à-dire que c'est un club dont le propriétaire extérieur lointain laisse bosser des Espagnols sur place. Mais ça marche.
Et ouais. Donc Grenade Manchester United, un des duels, les autres matchs Arsenal, ça te concerne aussi Julien, contre le Slavia Prague, et puis ensuite Ajax AS Roma.
Pas malheureux Arsenal, allez quand même.
Et Dynamo Zagreb, Villarreal.
Ouais, c'est compliqué
attention
à jouer, quand même, hein, Jean-Michel.
Je sais que
l'Europa League te plaît pas, Jean-Michel, et que tu regardes pas les matchs.
Non, Jérôme,
mais
Jérôme,
le Slavia Prague
Jérôme,
est une très bonne équipe.
Quand j'étais gamin, ou même junior, puisque c'était l'équipe de France junior.
Il y a très longtemps.
Oui, je te signale que les grands footballeurs, les bons footballeurs de l'époque arrivaient tous de Tchécoslovaquie. Mmh, et ouais, c'est vrai que c'est une école de football remarquable. Tu as raison, le Sparta de Prague, le Slavia de Prague, avec des garçons qui s'appelaient, et qui a eu un ballon d'or, je crois, qui s'appelait Mazopust. C'est évidemment, tu étais un projet affectif à ce moment-là.
Oui, mais j'ai une question, Jean-Michel. Jacques Santini, il avait un peu de sang russe, tchécoslovaque.
Non, tchèque.
Ouais, tchèque. Ouais. Tchèque, sa façon tchèque, de jouer, ça se voyait.
Ou slovaque, je sais pas. Je pense que c'était peut-être côté de Bratislava, peut-être.
Bah, quand il parlait, ça ressemblait à du slovaque par moment.
Ouais. Voilà, c'est ça. Y est. On a réussi à mettre Santini dans cette
coupe. Après, ça, c'est extraordinaire. Après Calandro, Santini, merci. On se fait des amis dans cette émission.
Non, je parle de ses causeries, moi. Oui, c'est l'expérience qui parle.
On se fait plein d'amis dans l'émission, Jérôme.
Mais on l'adore, Jaco.
On l'embrasse, bien sûr.
Ah oui, en plus.
On embrasse Fred, on embrasse Julien. Merci beaucoup, messieurs.
Merci, les amis.
Salut, les gars. Merci.
À très bientôt. Donc, pour ce Real Madrid-Liverpool, très
avec Grenade, là, on a envie de les voir.
Et là, restez avec nous parce qu'il va y avoir des questions. Alors, pas sur Grenade.
Hein, le Grenade Elche de ce week-end, je le regarde. Hein.
Mais il y a un quiz tout de suite avec des questions totalement abordables. Donc, n'hésitez pas, 32-16 pour jouer avec Jérôme ou pour essayer de faire gagner Captain quand même. Ça serait l'objectif. 4 défaites de suite. Est-ce que ça va changer? On attend ça.
Et bonne dynamique.
On arrive tout de suite. À tout.